L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans,
ouh, dans le monde. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
bon,
une heure et quart.
Ouais.
Bonjour.
Et bonjour tout le monde.
Vous êtes dans l'écho du parquet, l'émission des musiques et danses traditionnelles. Peut-être que vous êtes sur fréquence 7 dans la région d'Aubenas sur le 92 FM qui nous diffuse le 2e et le 4e lundi du mois à 19h. Ou sur Radio Méga dans la région de Valence sur le 99.2 FM les 2e et 4e lundi du mois à 11h, ou alors vous êtes peut-être sur Radio Saint-Féréol, dans la région de Cré, sur le 94.2, les 3e et 4e mardi du mois, ou plus probablement, vous êtes chez vous.
Voilà, à nous écouter sur notre audioblog Arte ou sur la plateforme modale de la FAMDT. Et dans l'émission qui est la numéro 9 aujourd'hui, on va vous parler, le sujet principal concerne Phonolite, un disquaire qui compte dans le monde du trad. Et puis on aura un peu des musiques diverses, on aura des vieilleries, des semi-vieilleries, des quasi-nouveautés et on va commencer par une vraie nouveauté.
Oui, puisqu'on commence avec un groupe local qu'on peut retrouver régulièrement sur les parquets de Rhône-Alpes qui s'appelle Frères de Sac Quartet. C'est écrit avec le chiffre 4, donc peut-être ça change la prononciation et qu'il faut dire Frères de Sac Quatrette, je ne sais pas trop. À l'origine, c'est deux frères qui tournaient déjà en duo et puis deux maris qui les rejoignent pour un groupe qui fait la part belle aux clarinettes puisqu'elles sont quatre. Donc on a Marie Mazille à la nickel harpa, à la clarinette basse, à la clarinette si bémol et à la voix. Marie Mercier à la clarinette si bémol et à la clarinette basse. Christophe Sacchettini, qu'on retrouve aussi dans un autre groupe qui s'appelle Jal, au flûte à bec, à l'Irish Whistle, à la cornemuse Centre-France, et puis Jean-Loup Sacchettini aux accordéons diatoniques et à la composition. Alors, Frères de Sac Quartet fait tourner un répertoire sans territoire de prédilection. On retrouve la Suède, bien sûr, nickel harpa oblige. Mais aussi Sud-Ouest ou Bretagne, et puis des reprises assez étonnantes, une valse musette de Joe Priva par exemple, et puis quelques compos personnels avec une couleur jazz qui donne la part belle aux introductions par exemple, qui sont assez longues et méditatives.
Oui, tout à fait, oui.
Alors leur premier disque, s'il vous plaît, est sorti, tu disais que c'est une nouveauté effectivement, leur premier disque est sorti en septembre dernier sur le label Mustradem, Mustradem qui est l'abréviation de Musique Traditionnelle de Demain. Mustradem, c'est aussi un collectif d'artistes qui est basé à Grenoble et qui est assez étroitement lié au collectif Midrias qui organise des stages de musique à vie aux musiciens et musiciennes de Rhône-Alpes. Alors on écoute tout de suite leur suite de Costarwatt issue de Collectage.
Thank you.
Et allons faire un tour maintenant du côté de Narragonia. Sous les applaudissements de la foule, le groupe belge qui a célébré en décembre dernier ses 20 ans de carrière. Narragonia, c'est un quartet que l'on a failli voir au Tradivernal du côté de Sommières il y a peu, mais la météo et son impact sur le transport ferroviaire en Belgique en ont décidé autrement. Mais d'un Narragonia, en fait, il y a surtout un duo au départ qui est composé de ses deux fondateurs, les deux fondateurs du groupe, Pascal Rubens et Toon van Mierlo. Pour autant, dans la galaxie Narragonia, il y a désormais un autre duo qui regroupe Toon van Mierlo au diato et à la cornemuse et Martin de Combel à la guitare. Donc Martin de Combel, c'est le guitariste qui œuvre dans la déclinaison quartet de Narragonia quand il ne fait pas vibrer les planchers avec d'autres formations comme Hot Griselda ou Snarmaharvar, le groupe qui a 6 A dans son nom. C'est un peu comme Manowar, mais avec plus de A encore avant. Et comme beaucoup de musiciens, ces deux-là ont profité du confinement qui était imposé par la pandémie de Covid pour composer, faire des choses un peu autres. Et ils ont sorti en avril 2022 Marafiki, un disque à l'ambiance feutrée qui conviendra donc forcément aux fans de Narragonia.
Oui, on entend bien la couleur Narragonia, la couleur Toon. Hein,
tout à fait, même si ce n'est pas non plus du Narragonia. Ça ne pourrait pas être un album, les compositions sont un peu différentes, il y a des atmosphères qui changent un peu, mais si vous aimez l'un, vous aimerez sans doute l'autre, essayez ça. Il y a beaucoup de choses donc très jolies sur ce disque qui associent souvent deux compositions différentes sur un même morceau, comme par exemple pour ce 7h swim Salut les grues que nous vous proposons maintenant dans l'écho du parquet.
Thank you.
Et voici venu le moment du sujet du jour. Dans l'écho du parquet, on va vous proposer un entretien qui est le dernier de nos entretiens qu'on a réalisé cet été au Son Continu.
Vivement le prochain.
Mais c'est ça, il est grand temps que ça arrive de nouveau, qu'on fasse d'autres entretiens pour vous diffuser ça. Et donc, parmi les acteurs du trad que nous avons interviewé cet été, il y a le disquaire Phonolite. Et c'est Mathéo qui nous a bien voulu nous rencontrer et nous parler un petit peu du job que fait Phonolite dans le monde du trad.
Je m'appelle Mathéo, je travaille pour la coopérative qui s'appelle Phonolite. C'est donc une coopérative avec différents coopérateurs, différentes structures qui sont membres de la structure. Je suis disquaire, spécialisé en musique traditionnelle et musique du monde.
T'es disquaire, mais pour qu'on comprenne un peu, pour ceux qui ne connaissent pas Phonolite, t'es disquaire itinérant.
En partie, une partie de l'année. Je me déplace sur les festivals trad. Que je peux faire, donc voilà, j'ai un créneau d'un mois et demi dans l'été où je fais que ça, plus après quelques balles dans l'année où je me déplace, dans un périmètre environ de maximum 4 heures autour de chez moi, c'est-à-dire à Rion dans le Puy-de-Dôme, voilà, et sinon j'ai un site de vente que j'alimente et qui a des commandes toute l'année.
C'est un disquaire qui est donc entièrement spécialisé sur le trad, est-ce que c'est une situation unique en France?
Absolument, je n'ai jamais croisé d'autres personnes faisant ça, ayant un catalogue généraliste. Comme vous pouvez le voir là aujourd'hui, plein de labels qui vendent leurs disques, voire des fois les disques de trois copains, mais voilà, je suis le seul à avoir pas tout ce qui se fait en France, mais beaucoup.
Comment ça s'est fait ton parcours? Est-ce que tu étais d'abord disquaire et tu t'es passionné progressivement pour la musique trad et donc tu en as fait ta spécialité de disquaire ou l'inverse?
Mon parcours dans les musiques trad, il a commencé il y a très longtemps quand j'étais gamin en allant au bal avec mes parents. Et puis après, je suis passé dans différentes associations, d'abord en tant que bénévole, puis en tant que membre du bureau, etc. Et puis il s'est trouvé qu'en fait, il y a une association qui s'appelle l'AMTA, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, qui existe depuis les années 80, et qui était label, qui a été productrice de beaucoup de disques, et qui vendait ses propres disques. Et puis au fil des années, ils sont mis à vendre différentes choses, jusqu'à en vendre vraiment beaucoup, et du coup à devoir créer une entreprise à côté du cadre associatif pour pouvoir continuer à se développer. Et donc ils ont créé la coopérative et il s'est arrivé en 2014 qu'ils aient besoin de monde et donc il m'a embauché à ce moment-là. Voilà. Mais je ne me destinais pas à ça du tout, mais voilà, il se trouve que ça fait quand même 9 ans que j'y suis et que c'est super.
Et est-ce que tu as une idée de qui sont tes clients et par quel biais ils ont accès aux disques, puisque l'essentiel de votre catalogue c'est des disques?
Mes clients c'est des amateurs de musique, principalement des danseurs. Qui se déplacent au long de l'année sur les balles, les festivals qu'ils ont près de chez eux, ou enfin voilà, plus ou moins loin, quoi. Et qui découvrent un groupe sur scène et qui veulent avoir leur disque. Et c'est très compliqué de vendre sa propre musique. Il y a beaucoup de groupes qui n'arrivent pas, enfin c'est pas évident, quoi. Et du coup, il y a pas mal de clients qui ne trouvent pas en fin de balle les CD. Et voilà, et venir chez Phonolite, c'est pas l'assurance, mais on est presque sûr de trouver ça.
Et comment ça se passe justement cet aspect économique du disque? Est-ce que tu penses que dans le trad ça se porte mieux que dans d'autres domaines musicaux? Le disque, le support quoi.
Oui. Je connais pas bien les autres milieux musicaux, mais de ce que je peux en entendre, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Dans le trad ça va pas mal. Là sur le festival, sur 4 jours de festival, j'ai vendu environ 850 disques, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après c'est quand même un support qui est un peu en perte de vitesse, même dans le trad. Voilà, et beaucoup de clients me confient le fait qu'ils n'ont plus de lecteurs, que ce soit sur la voiture, sur l'ordinateur, et que du coup ils sont bien embêtés pour écouter la musique. Donc voilà, je suis sur des un peu à une charnière de mode de travail et de support que je peux proposer, et donc en pleine réflexion moi de mon côté, et puis aussi en collaboration avec tous les labels et puis la fédération, la FMDT, pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses dans le trad pour que qu'on puisse trouver en numérique les disques de tout le monde, sans pour autant forcément passer par des plateformes comme Deezer ou Spotify qui rémunèrent extrêmement mal les artistes. Et on a la chance d'avoir une filière dans Music Trad qui est très, très soudée, assez... soudée. Et du coup, contrairement à d'autres styles musicaux, personne ne se tire dans les pattes, on n'est pas là pour faire de la concurrence ou de l'ombre aux autres. Et du coup, il y a des vraies synergies quoi, qui sont possibles et qui sont souhaitées par tout le monde. Donc, je ne sais pas vers quoi on va pour le numérique, mais voilà, il y a des choses qui sont en réflexion.
Que par rapport à d'autres styles musicaux, dans le trad, il n'y a pas eu de retour en force du vinyle et que les gens sont restés au CD. Est-ce que le professionnel de la chose peut confirmer ça ou pas ?
C'est vrai que le vinyle n'est pas revenu en force, effectivement. Il y a quelques labels comme Pagans ou La Neuve qui, eux, pressent en vinyle certaines de leurs productions, mais alors pas tout déjà. Et puis, c'est plutôt des labels de musique... pas expérimental, mais qui font pas forcément que du bal, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses dans le trad qui sont devenues indisponibles, rares, recherchées, qui n'ont pas été rééditées et que des gens te demandent et que tu ne peux pas leur fournir ?
Là, comme ça, j'aurais pas de titre particulier en tête. Ce qui est vrai, c'est que ça reste une petite économie et que les labels ou les artistes qui sont en autoproduction pour beaucoup ne tirent pas en grande quantité. Les périodes où les artistes tiraient à 10 000 exemplaires, c'est parce que c'est arrivé dans le trad quand même, que, voilà, ça c'est bien révolu. Donc on tire à 1 000, 2 000 vraiment grand maximum, mais c'est même plus souvent 500. Donc ça s'écoule relativement vite, en 3-4 ans il y a des disques qui sont épuisés, à condition que les groupes tournent sur les festivals. Et là pour le coup il n'y a pas forcément de réédition, la logique c'est plutôt de ce que je vois actuellement, c'est plutôt d'éventuellement sortir un nouveau disque et puis de mettre le disque en version numérique, soit en téléchargement, parce que sur Phonolite par exemple, on a un onglet de téléchargement, ou sur les plateformes de streaming.
Présenter le reste du catalogue de Phonolite en dehors des disques, parce que vous avez d'autres choses aussi, dont des trucs un peu rares que tout le monde cherche, qui sont des vieux magazines.
Oui, effectivement, il y a un petit côté librairie, effectivement, donc avec des éditions. L'idée, c'est de ce côté livre, c'est de se consacrer plutôt aux instruments, à la lecture musicale, à vos partitions. Et puis, pour ce dont tu fais référence, c'est les Tradmag, qui est une édition effectivement qui a arrêté il y a quelques années et dont j'ai pu récupérer les stocks et que du coup je propose à tarif bien bien cassé pour les amateurs de vieillerie.
Est-ce qu'il y a des modes que tu... Donc ça fait une dizaine d'années que Phonolite existe. Est-ce que tu as vu passer des modes dans l'achat de disques ? Est-ce qu'il y a des incontournables que tu en vends des dizaines et des dizaines par an et d'autres qui tombent dans l'oubli ? Enfin voilà, quel est l'effet de mode dans le trad ?
Je ne sais pas si c'est un effet de mode stylistique. Ce qui est plutôt vrai, c'est un effet de mode assez restreint sur le temps qui concerne les nouveautés, les sorties de l'année, les... Il y a beaucoup de festivals durant l'été, les artistes s'essayent à les sortir pour le mois de juillet, quoi, pour que ça soit frais, que voilà. Et voilà, donc là, clairement, ce que je vends le plus, c'est les disques des groupes qui sont programmés sur les festivals où je suis, parce que du coup, c'est un achat coup de cœur, en fait, les gens l'ont vu sur scène, viennent après l'acheter.
Quel est ton rapport à l'international? Est-ce que les musiques que tu diffuses de trad français, est-ce que tu arrives à mesurer un intérêt international? Et est-ce que tu as des connexions avec des labels étrangers pour diffuser en sens inverse leur musique?
Pour l'instant, ça reste très modeste. J'ai l'ambition d'être un disquaire vraiment spécialisé en musique du monde et d'avoir, pas tout, mais d'avoir beaucoup de choses. Pour l'instant, j'ai 3000 références au catalogue. Ça prend du temps à développer.
Phonolite physique dans laquelle on peut se rendre et comme n'importe quel disquaire et voir en dehors du côté itinérant, et sinon est-ce que c'est un projet?
Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de boutique physique parce que je suis basé dans un petit village de 20 000 personnes et qu'il n'y aurait pas du tout le potentiel de clientèle pour que ça marche. Et plusieurs fois j'ai eu un peu le rêve d'ouvrir un lieu, par exemple à Clermont-Ferrand qui est une ville un peu plus grande que là où je suis. D'ouvrir un lieu un peu multifacette avec une boutique, avec un petit coin scène, avec un petit coin studio, avec un lieu dédié aux musiques traditionnelles, comme l'ont fait par exemple Pagans avec Apo. Récemment, ils ont ouvert un super lieu comme ça, mais j'ai pas le. Ça se fera pas, j'imagine. Et voilà, pour l'instant, on reste en présentiel sur les festivals et puis à distance le reste du temps.
Est-ce que tu as d'autres projets du coup, si c'est pas ça le projet? Est-ce que tu as des idées sur comment tu veux faire évoluer la boutique à l'avenir?
Le projet, ça va vraiment être de développer le numérique pour que les artistes puissent être présents facilement sans avoir forcément de frais au niveau du pressage de disques. Ça peut être une économie intéressante. Et puis que vraiment tout le monde puisse les écouter facilement. Le challenge, c'est de trouver un modèle économique qui soit viable à la fois pour Phonolite et à la fois pour les artistes, parce qu'il est hors de question qu'on crée un objet qui soit dans la même veine que Deezer ou Spotify, qui rémunère à hauteur d'un millième de centime par écoute. Enfin, c'est juste pas possible. Donc voilà, là c'est vraiment le challenge. Il y a peut-être des choses qui sont possibles avec, comme je le disais tout à l'heure, avec l'ensemble du réseau, voire au niveau européen, mais ça pour l'instant c'est vraiment les balbutiements du truc. Donc parmi vos auditeurs il y a quelqu'un qui s'y connaît dans tout ce domaine-là, il peut contacter Phonolite.
Ouais, du coup, quelle est la dimension de conseil dans ton activité de disquaire? Est-ce qu'il y en a une dimension de conseil?
Ah oui, absolument. Il y a beaucoup de clients qui viennent avec une idée très précise et puis qui nous demandent un titre vraiment. Mais il y en a aussi beaucoup, et ça c'est très, très chouette à voir, qui découvrent ce milieu-là et qui ont besoin de conseils et sur un style à découvrir, sur un instrument, sur voilà. Et c'est vraiment ce qui est intéressant sur cette période-là de l'année où je suis en contact direct avec ces clients-là, c'est que je peux vraiment les renseigner, les aiguiller. Et puis c'est vraiment très intéressant d'essayer de comprendre les gens, de voir comment, qu'est-ce qu'ils attendent et d'essayer au mieux de répondre à la question. Et ce qui est génial, c'est quand on les retrouve l'année suivante et qu'ils nous disent c'était génial les conseils, on revient, qu'est-ce que vous avez cette année? Bon, ça arrive de temps en temps, mais c'est super quand ça arrive.
Alors on va faire ton métier de disquaire en live dans l'émission. Imagine que je suis un client lambda qui passe au son continu, qui découvre complètement les musiques trad au son continu et qui dit j'ai de quoi m'acheter 3 disques. Quels sont les 3 disques que vous me conseillerez pour m'immerger dans cette musique?
Il y a des sorties, alors je ne suis pas tout à fait impartial parce que je suis membre aussi de d'autres associations, donc je peux parler de leurs disques. Donc il y a La Vieille, un disque d'Association des Braillots, qui est sorti récemment, qui est un super trio violon, accordéon, chant. Il y a Bargenat, un quintet qui marche très très bien en bal folk. Voilà, et un troisième, je pourrais parler de qui? Là, comme ça, je sais pas.
ouais, ça me fait penser à un autre conseil que tu pourrais nous donner, juste ton coup de cœur de l'année, le disque de l'année.
Pour parler de ceux que j'ai écoutés, j'ai beaucoup aimé celui de Fublen, disque de l'association de la Chavanée. Et puis disque du groupe Bourrasque, qui est duo banjo et violon, qui est excellent.
Ah, c'est bien ça.
Et c'était Blosabella. On vient d'écouter la valse C, qui est issue de l'album To Score, donc de Blosabella. Pour les familiers de l'écho du parquet, on a déjà parlé plusieurs fois, à demi-mot, de Blosabella. Vous pouvez retrouver par exemple une interview de John, qui est luthier et cornemusiste fondateur du groupe, dans notre émission spéciale Cornemuse.
La légendaire émission spéciale Cornemuse.
Que vous pouvez réécouter sur notre audioblog. Et puis, on a regretté amèrement de ne pas avoir eu le temps de vous faire goûter la saveur de Blosabella dans notre émission spéciale Via la Roue. Alors, ouf, la voilà enfin. Pour faire vite, on pourrait dire que Blosabella est le plus français des groupes de trad anglais, entre autres parce que la cornemuse que joue John Swain est très inspirée des cornemuses Berrichon. CF, l'émission spéciale cornemuse.
On s'auto-cite et on s'auto-renvoie.
En tout cas, c'est un pilier de la musique trad depuis 45 ans qu'il existe. Alors, excepté une pause de quelques années dans les années 90, avec une douzaine de disques et certainement un bon paquet de balles à son actif. Alors forcément, sur une existence aussi longue, la composition des membres du groupe a pas mal changé. On vous passe les détails, mais sachez qu'ils sont actuellement 6. Et donc, il y a Andy Cutting à l'accordéon diatonique. Andy Cutting qui fait aussi partie des groupes Levrette et Topette. On a Joe Freya à la clarinette, au saxophone, Paul James aux cornemuses, Dave Shepard au violon, Barnes Tendling à la guitare, enfin à la basse, pardon, guitare-basse, c'est basse en fait, et John Swain à la cornemuse et au saxophone. Historiquement, il y a aussi la vielle à roue qui est très présente dans le groupe, comme on a pu l'entendre dans ce morceau, et il n'y en a pas en ce moment, mais un joueur de vielle devrait de nouveau rejoindre Blosabella en 2025 et le groupe devrait nous donner des nouvelles de son avenir en 2026. Voilà. En attendant, vous avez quand même une douzaine de disques à écouter.
Ouais. Et c'était Grégory Jolivet, le français, qui jouait sur de la vielle à roue sur l'album. Et je crois même que c'est lui qui a composé ce morceau, c'est qu'on a écouté.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
Et on va rester dans les îles britanniques, mais cette fois-ci, on va passer de la Grande-Bretagne à l'Irlande, avec le groupe Planxty, pour une espèce de petite chronique un peu historique, on va dire. On va vous présenter ce vieux groupe.
Puisque... C'est l'émission des vieux groupes. Hein.
C'est l'émission des vieux groupes, oui. Ils ont dû commencer... Alors, je ne sais plus, Blosabella, tu as dit en quelle année ils ont commencé ?
En 84 ou quelque chose. Enfin, ouais. Ça fait 45 ans. Quoi.
Voilà, c'est beaucoup plus vieux, puisque Planxty avait commencé au début de l'année 1972. Et c'était la réunion de différents musiciens qui étaient déjà actifs et connus un peu sur la scène folk irlandaise. Et ce groupe Planxty, il a activement contribué à la rénovation, mais aussi à la diffusion de cette musique trad irlandaise tout au long des années 70 jusqu'au début des années 80, quand ils ont arrêté. Avec ce qui faisait un petit peu leur patte, c'était un mélange d'instruments traditionnels et non pas de musique électronique, pardon, de musique électrique, mais avec des guitares sèches qui sonnent très folk 70s. Donc on a une espèce de combinaison de deux folk qui sonnent vraiment très très folk. Et le groupe, le nom du groupe, Planxty, ça vient d'une expression qui était utilisée par le célèbre harpiste O'Carolan, qui fut au XVIIIe siècle, en tant que compositeur, la référence majeure de la musique trad irlandaise, et qui utilisait ce mot, je crois, comme une espèce de bienvenue à des invités ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, et c'est devenu une espèce d'idiome.
Et c'est irlandais.
Ouais. Et Planxty a plusieurs reprises puisé dans le répertoire d'O'Carolan, à qui doivent leur nom, ainsi que dans celui d'un chanteur irlandais du début du XXe siècle qu'ils ont mis en lumière et qui s'appelle John Jaco Raley. Alors, c'est un groupe qui est aujourd'hui moins connu que les Chieftains ou les Dubliners, ou des groupes qui sont un peu les symboles de ce courant du revival irlandais. Mais pour moi, c'est un groupe qui est très important et que j'aime beaucoup, qui a publié 6 albums studio en 10 ans de carrière. Et afin de les découvrir, on vous propose le titre As I Roved Out, qui était paru en 1973 sur le deuxième album du groupe, The Well Below the Valley. Thank you.
I roved out on a bright May morning to view the meadows and flowers gay. Whom should I spy but my own true lover? As she sat under yon willow tree, I took off my hat and I did salute her. I did salute her most courageously. When she turned around, well, the tears fell from her, saying, "False young man, you have deluded me. A diamond ring I own I gave you. A diamond ring to wear on your right hand. But the vows you made, love, you went and broke them. And married the lassie that had the land. If I married the lassie that had the land, my love, it's that I'll rue till the day I die. When misfortune falls, sure no man can shun it. I was a blindfolded, I'll ne'er deny. Now at night, so when I go to my bed of slumber, the thoughts of my true love run in my mind. When I turn around to embrace my darling, instead of gold, sure 'tis brass I find. And I wish the queen would call home her army from the West Indies, America and Spain, and every man to his wedded woman, in hopes that you and I will meet again.
Et on va maintenant vous parler d'un, après cette très jolie balade, si vous n'êtes pas endormi.
Ou si vous voulez retomber de votre extase et que vous allez repartir en extase.
Avec le trio Coltri Menduto Morelli, qui est un trio italien qui groove depuis une vingtaine d'années et a pris un tournant électrisé très réussi. Alors, on a Gabriel Coltri à la musette, qui on le rappelle est une cornemuse du Centre France. Mmh. Alberto Morelli au pifero, qui est un petit hautbois du nord de l'Italie. Il fait aussi les percussions et les machines. On a dit que c'était assez électrique. Et Tiziano Menduto à l'accordéon chromatique. Alors, on peut dire deux mots sur leur identité visuelle, puisque l'album que nous avons presque entre les mains fait tournoyer des pissenlits blancs sur fond noir. Et il se trouve que dans le nord de l'Italie, le pissenlit se dit piva, comme la cornemuse. Ajoutez à cela que les pétales de pissenlit s'envolent dans toutes les directions, comme la musique, sans frontières et sans limites.
C'est beau.
Voilà, que la fleur est le logo du groupe. Et à entendre leur musique, on se dit aussi qu'ils la nourrissent de pétales de pissenlit venus d'un peu partout, puisqu'ils naviguent entre la Suède et le Nivernais, en passant par la Grèce, c'est assez éclectique.
Pissenlit de tout pays, unissez-vous.
unissez-vous à l'écoute du trio Coltri Menduto Morelli et leur branle d'osso, qui rassemble deux traditionnels, c'est en occitan, hein, Sun Punt de Saint-Jean et des bats de pen Kenun Junket, arrangé à la sauce du trio et tiré de l'album Peroni Dove, un album de 2018 qui signifie littéralement pour partout, voilà, pissenlit de tous les pays. Écoutez ça.
Et c'est comme ça qu'on vous dit au revoir. Thank you.